Envoyez en Avignon, reprit Enguerrand, deux émissaires, hommes d'église d'une sûreté absolue, je veux dire des gens à votre merci. Faites-les se promener à Carpentras, à Châteauneuf, à Orange, partout où les cardinaux sont éparpillés, et répandre avec autorité, comme venant de la cour de France, des assurances tout à fait opposées. L'un annoncera aux cardinaux français que le nouveau roi permettrait le retour du Saint-Siège à Rome, l'autre dira aux Italiens que nous inclinons à établir la papauté plus près encore de Paris, pour qu'elle soit mieux sous notre dépendance. Ce qui n'est rien que vérité après tout. Et des deux parts, puisque le roi est incapable de juger ces choses, que Valois veut le pape à Rome, et que je le veux en France. Le roi n'a en tête que l'annulation de son mariage, et ne voit pas plus loin. Il l'obtiendra, mais seulement à l'heure que je voudrais, et d'un pontife à ma convenance. Pour l'instant donc, retardons l'élection. Veillez à ce que vos deux envoyés n'aient pas de lien entre eux. Il serait même souhaitable qu'ils ne se connussent point. Sur ces paroles, il congédia son frère pour recevoir son fils Louis, qui attendait dans l'antichambre. Mais quand le jeune homme fut entré, Marigny resta un moment silencieux. Il pensait tristement, amèrement, « Jean me trahira dès qu'il y croira trouver son profit. » Louis de Marigny était un garçon mince, de belle tournure, et qui s'habillait avec recherche. Il ressemblait assez pour les traits de figure à l'archevêque son oncle. Fils d'un personnage devant qui le royaume entier s'inclinait, et de plus filleul du nouveau roi, le jeune Marigny ne connaissait ni la lutte ni l'effort. S'il faisait montre certes d'admiration et de respect pour son père, il souffrait en secret de l'autorité brutale de celui-ci et de ses rudes manières qui disaient l'homme parvenu par l'action. Pour un peu, il aurait reproché à son père de n'être pas assez bien né. « Louis, équipez-vous, » dit Enguerrand. « Vous partirez tout à l'heure pour Londres délivrer une lettre. » Le visage du jeune homme se rembrunit. « Cela ne saurait-il attendre après-demain, mon père? Ou bien n'avez-vous personne qui me puisse remplacer? Je dois chasser demain dans le bois de Boulogne. Petite chasse, parce que c'est deuil, mais... »« Chasser! Vous ne pensez donc qu'à chasser ?» s'écria Marigny. « Ne demanderai-je jamais la moindre aide au mien, pour qui je fais tout, sans qu'il commence à rechigner ?» Apprenez que c'est moi que l'on chasse prestement pour m'arracher la peau et la vôtre avec. S'il me suffisait d'un quelconque chevaucheur, j'y aurais songé tout seul. C'est au roi d'Angleterre que je vous envoie, afin que ma lettre lui soit remise de main à main, et qu'il n'aille pas en circuler copie que le vent pourrait rabattre par ici. Le roi d'Angleterre, cela flatte-t-il assez votre orgueil pour que vous renonciez à une chasse?
Pardonnez-moi, mon père, dit Louis de Marigny. « Je vous obéirai. »
En donnant ma lettre au roi Édouard, auquel vous rappellerez qu'il vous a distingué l'autre année à Maubuisson, vous ajouterez ceci, que je n'ai point écrit, à savoir que Charles de Valois intrigue pour remarier le nouveau roi à une princesse de Naples, ce qui tournerait nos alliances vers le sud plutôt que vers le nord. Voilà, vous m'avez entendu. Et si le roi Édouard vous demande ce qu'il peut faire dans mon sens, dites-lui qu'il m'aiderait fort bien en me recommandant fortement au roi Louis, son beau-frère. Prenez les écuyers et sommeliers qu'il vous faut, mais n'ayez pas trop grand train de prince, et faites-vous bailler 100 livres par mon trésorier. » Quelques coups furent frappés à la porte. « Messire de Paris est arrivé, » dit l'huissier.
« Qu'il vienne. »
« Adieu, Louis. Mon secrétaire vous portera la lettre. Que le Seigneur veille sur votre chemin. »